Après une semaine dernière bien chargée pour le cinéma Le Régent à Saint-Gaudens, avec la 13e édition des Rencontres du film d'art, Le Régent reprend son rythme habituel, comme nous allons le voir avec Thomas Miquel. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur du cinéma. Avant de prendre connaissance du programme, comme nous le faisons toutes les semaines, un mot sur cette 13e édition. Quelle a été la fréquentation cette année ?
Cette année, on a encore eu plus de monde que l'année précédente. Donc on commence à s'habituer, puisque chaque année, on a plus de monde que l'année qui précède. Mais là, c'est sûr qu'on commence à atteindre... Là, on est à plus de 11 000 entrées. Tout compris. Donc, c'est énorme quoi. En 4 jours, que concentré sur le festival. Je ne sais pas combien de personnes ça représente, c'est dur de compter parce qu'en entrée, une personne peut venir voir deux films, mais ça fait quand même des milliers de personnes donc, qu'il faut absorber. On avait des salles pleines à toute heure. Maintenant, il n'y a plus de temps fort et de temps faible, c'est en temps fort en continu. Donc, on est très contents, c'est quand même un an de travail. C'est 30 personnes presque qui pendant les 4 jours aussi sont là pour que ça tienne debout, parce que c'est bien de programmer des films, mais les gens aiment ce festival et viennent aussi parce que il y a une certaine ambiance. D'ailleurs, on appelait ça les rencontres du film d'art et pas le festival du film d'art, et donc c'est un peu notre mantra, notre mot un peu totem comme ça, qu'à chaque fois qu'on pense à quelque chose, on se dit qu'il faut que ce soit dans cet esprit de rencontre et de convivialité, et que tout le monde, de se dire que tout le monde est le bienvenu, ce dont on avait un peu parlé la dernière fois, et dans la programmation et dans l'accueil, que les gens qui sont érudits, qui connaissent l'art, qui sont pointus, ils viennent et ils y retrouvent leur compte, mais aussi ceux qui n'y connaissent rien ou pas grand-chose, ou qui se disent, qui se seraient dit a priori, c'est pas pour moi, mais justement, nous, ce qu'on dit, c'est que venez parce que c'est un festival de cinéma et à travers les films vous allez découvrir les arts, et ça désacralise un peu les œuvres aussi, ça permet de comprendre certaines choses, et justement ça donne plein de clés, et que nous on fait la programmation, on est comme vous, j'ai envie de dire, en tout cas comme la partie des gens qui n'ont pas une connaissance en art particulièrement affinée, et que justement on adore faire ce festival parce qu'on découvre plein d'artistes, plein de façons de faire, comment les questions que se posent le peintre ou la peintre. Là, il y avait un film sur le processus d'écriture d'un roman, c'est quand même fascinant de voir Marie-Hélène Lafont réfléchir aux tournures de ses phrases, à la relecture. Ça permet de comprendre l'architecture, la danse, la musique, et donc, c'est à la fois festif et convivial, donc nous on est très contents, et surtout de la dimension que ça a prise, on a l'impression que c'est un peu une récompense aussi du travail qui est mené. Donc, maintenant il faut compter sur les rencontres du film d'art, et aussi ce qu'on aime, c'est que ça renvoie vraiment une image, et de Saint-Gaudens et du Comminges, une bonne image. Souvent on se plaint un peu en se disant on entend dire il n'y a pas grand chose, ou alors il se passe des choses, et cet afflux de personnes en plus, ce sont des visages qu'on ne connaît pas, ça veut dire que c'est des gens qui viennent de l'extérieur et donc qui viennent dans le Comminges et qui repartent avec l'idée qu'il se passe des choses originales et chouettes ici quoi.
Avec une remise des prix qui a eu lieu ce dimanche.
Oui, alors pareil, remise des prix, en fin de compte on essaie de faire quelque chose d'original, puisque comme on dit, on a toujours le mot rencontre dans la tête, et on voulait pas que ce soit un festival avec un jury et mettre les films en compétition. Donc ce qu'on propose, c'est un rendez-vous particulier où avec le temps on s'est aussi dit que remettre des prix ou des mentions, c'est soutenir les films, et c'est parfois bien pour ces films qui on trouve pas d'issue en salle pour la plupart d'avoir le soutien d'un festival. Donc là il y a trois choses. Il y a le prix des rencontres qui est vraiment une sorte de prix un peu à l'unanimité, c'est-à-dire qu'à la fois le festival qu'on a invité, qui était le Dart Festival de Barcelone cette année, et nous sommes d'accord pour dire que le film a quelque chose de particulier, quoi, qu'il a en tout cas une aura particulière. Donc ça c'est le prix des rencontres, donc la rencontre entre deux festivals, et le prix des rencontres du film d'art. Ensuite il y a le prix bruit de couloir, donc là il y a une urne, et en fait les gens peuvent glisser leur ticket de séance dedans pour lorsqu'ils ont un coup de cœur, et à la fin on compte, donc un film ressort, donc c'est El Canto de las Manos, le prix des rencontres. Je vais un peu détailler El Canto de las Manos, c'est donc un film vénézuélien où on suit un groupe de personnes muettes et sourdes et malentendantes, et qui vont apprendre un opéra et qui vont le traduire à côté en langage des signes, mais en l'interprétant. pas juste en faisant les langages des signes comme à la météo, c'est-à-dire en y mettant l'émotion, etc., avec les chanteurs et chanteuses à côté. Et donc on les voit monter ce projet un peu fou, et en même temps on voit leur vie. Voilà. Donc c'était un film qui a beaucoup ému. Le prix des rencontres, c'est Rule of Stone, qui parle d'architecture, notamment l'architecture de la ville de Jérusalem, ou comment, par des grands projets de grands architectes israéliens, comment on isole une population, en l'occurrence les Palestiniens, et comment on les repousse de la ville. Donc c'est un film qui commence sur l'architecture et qui petit à petit montre que aussi la responsabilité des artistes aussi, parce que dans ce film, les architectes disent nous, on nous a demandé de faire, on a fait. C'est la même chose que disaient certaines personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu conduire les trains, on les a conduits. Donc en fait, c'est un film qui renvoie un miroir aussi sur ça, sur la responsabilité de l'artiste et de son engagement aussi, ce dans quoi il s'engage pour créer. C'est vraiment un super film, très très bien fait. Je pense que celui-ci il sortira en salle de cinéma. Je pense qu'il trouvera un distributeur. Je vois pas comment, il n'en trouverait pas. Et il y a aussi une mention spéciale. Donc là, c'est nous qui aimons bien donner une mention spéciale à un film, pour un film un spécial, justement. Et là, c'est L'œuvre invisible, qui était le film du samedi soir. Voilà. Et donc, qui va sortir en salle, j'ai appris en avril. Voilà, ils nous l'ont annoncé là. Ils ont monté une société de distribution, ils vont pouvoir le sortir, donc c'est super, on est content parce qu'on aura eu un peu une exclusivité ici. Et voilà, un petit peu, c'est un film sur un cinéaste maudit, et c'est une enquête qu'ils ont menée pendant 15 ans, donc c'est un film palpitant qui est mené un peu comme un thriller, où on se demande est-ce qu'ils vont retrouver des traces de ce réalisateur. Voilà.
L'œuvre invisible, nous écouterons dans un instant après cette interview, l'interview des deux réalisateurs de ce film. Thomas, voyons à présent, parce que le cinéma Le Régent reprend son quotidien, la programmation cinématographique avec des films japonais en avant-première du 4 au 10 février. Alors, ça a commencé dans le cadre des saisons Hanabi.
Oui, tout à fait. Donc c'est la quatrième ou cinquième fois qu'on le fait. Donc c'est un distributeur de films japonais qui ne sort pratiquement que des films japonais, qui s'appelle Art House, et qui chaque année propose aux salles, donc nous on aime bien le faire, de ce concept de, en une semaine, 7 avant-premières, 7 films japonais, un par jour. Donc c'est aux alentours de 18h45-19h selon la durée des films, et après c'est des films que ce distributeur va sortir pendant l'année. Alors bon, je vous encourage à venir, il y a des films qu'on ressortira et d'autres pas, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, des films qui sortent quand c'est chargé, mais nous c'est l'occasion au moins de les programmer. Il y a une carte à 32€ où vous avez les 7 films dessus, enfin 7 places pardon, et donc ça peut être pratique parce que si vous voulez voir les 7, mais si vous voulez en voir que quelques-uns et que vous êtes à 2, vous pouvez aussi prendre la carte, comme ça il y a 3 films que vous pouvez voir à 2, ça fait 6, et il restera une place pour un dernier éventuellement que vous venez voir, ou un que vous venez voir à 3, ou un que voilà. Donc vous pouvez jouer un peu avec cette carte.
Le prochain classique sur grand écran sera le film d'Elia Kazan, Un tramway nommé Désir, avec Viviane Leigh, Marlon Brando, mardi 10 février. C'est un rendez-vous en deux temps. Et puis notez, pour les personnes qui ne pourront pas être présentes le 10 février, une séance de rattrapage le lundi 16 février à 14h15. C'est une soirée qui est animée par Matisse.
Tout à fait. C'est les soirées classiques et bistrot. Proposition du bistrot, puisqu'avant le film à 20h30, donc c'est souvent des grands classiques du cinéma que l'on reprend, à 19h30, il y a un rendez-vous, c'est une conférence ludique animée par Matisse, où il revient sur le film, les coulisses, l'époque, voilà, il y a un écran dans le bistrot, et puis il raconte plein de choses, et vous pouvez en même temps ou juste l'écouter, ou alors boire un verre, manger un bout, et ensuite aller voir le film.
Alors quels sont vos choix pour le ou les films de la semaine, Thomas? Vous avez le temps d'en voir quelques-uns avec les rencontres du film d'art?
Très franchement, pas du tout. Voilà, donc il sort des films. Donc il y a tout de même un que j'avais vu il y a un moment avant qu'il sorte, c'est Le Gâteau du Président, un film irakien sur la chute de, avant la chute de Saddam Hussein d'ailleurs. On ne savait pas l'anecdote, mais à chaque fois que c'était son anniversaire, il fallait que les gens fassent des gâteaux. Et on suit une petite fille qui doit faire ce gâteau. Le film est très 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 bien. Il était à Cannes et c'est vraiment très bien. Et après, en film plus familial, donc je l'ai pas vu, mais il y a des très bons retours. C'est Le Marsupilami. Donc c'est pas, il y avait eu un film réalisé par Alain Chabat. Et là, c'est plutôt l'équipe qui a fait Babysitter, qui avait fait aussi le titre m'échappe, avec Didier Bourdon, où ils ont une agence, vous savez, où ils montent des faux mariages ou pour cacher les mensonges. Là, c'était très très bien fait. Et donc, c'est cette équipe-là. Et donc, voilà, le film, la grosse sortie du moment. Et puis, Le Gâteau du Président en film d'auteur.
Merci Thomas pour ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur du cinéma Le Régent à Saint-Gaudens. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Vladimir Rodunov et Avril de Tambouré, bonjour.
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 Alors, vous êtes tous les deux réalisateurs du film L'œuvre invisible, hein, qui a été présenté ce samedi au cinéma Le Régent à Saint-Gaudens, à l'occasion des rencontres du film d'art. Il y a environ 10 ans, vous vous êtes lancé sur les traces d'un cinéaste oublié, Alexandre Tranois. Le tournage vous a demandé une quinzaine d'années. Alors, pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé à Alexandre Tranois ?
Merci d'abord pour la curiosité pour Alexandre Tranois. C'est très touchant parce que c'est un cinéaste méconnu, pour ne pas dire oublié, et il était parfaitement méconnu de nous-mêmes avant qu'on s'y intéresse. Le point de départ du film, c'est une rencontre, celle avec Jean Rochefort. Voilà, moi je l'avais côtoyé et j'avais fait un documentaire avec lui, et puis il nous a parlé d'Alexandre Tranois, qu'il avait connu dans sa jeunesse. Il avait tourné avec lui quelques films, et tout de suite, ça nous a piqué au vif parce qu'on se disait, tiens, c'est bon, on ne le connaît pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et quand Rochefort vous dit droit dans les yeux des histoires de cinéma qui sont riches, qui sont vastes, qui font rêver, d'abord on écoute et ensuite on s'interroge et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Et on a vite senti que Rochefort ne nous racontait ça pas par hasard. Il voulait, d'une certaine manière, nous transmettre quelque chose. Ce quelque chose, c'était l'idée de faire un film sur son vieil ami Alexandre Tranois. Je pense qu'il regrettait, d'une certaine manière, qu'il ne reste rien de lui, puisque cet homme, Tranois, a passé sa vie à essayer de faire des films qui sont tous restés inachevés. Et donc, il avait à cœur, Rochefort, il avait 80 ans à ce moment-là, de rendre justice peut-être à son ami et de faire en sorte qu'il reste quelque chose d'Alexandre Tranois. Voilà, c'était le point de départ de l'œuvre invisible.
Oui. Vladimir ?
Oui, en fait, c'est vrai que Rochefort nous a raconté des histoires de cinéma qui étaient fascinantes, même incroyables. Parce que Tranois, quelque part, est peut-être le cinéaste le plus maudit de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que d'habitude, les réalisateurs arrivent à faire des films. Par certains ont des échecs, évidemment. Nous aussi, on a eu des films qui n'ont pas abouti. Mais là, que tous ses projets n'aient pas abouti, alors même qu'il a tourné avec les plus grands, comme Jean Rochefort, comme Marcello Mastroianni, comme Anouk Aimée, il a même tourné à Hollywood. Donc du coup, cette contradiction apparente, enfin, il est célébré, les gens en parlent, notamment les gens qui ont travaillé avec lui, en parlent comme d'un grand metteur en scène, et pourtant, il n'y a pas de film, il n'y a pas d'image. Donc ça, cette question-là nous a porté pendant plus de 15 ans.
Pourquoi il n'y a pas d'image ?
Eh bien, c'est ce qu'on s'est posé comme question pendant le film. C'est-à-dire, le film essaye de répondre à cette question, on n'a pas tout à fait la réponse. C'est-à-dire, est-ce que c'était vraiment une malédiction, au sens premier du terme, une sorte de malchance pas possible, presque incroyable, ou est-ce que c'était lui-même qui se sabotait, qui ne voulait pas que ses films sortent. Voilà, peut-être la réponse est entre les deux.
De quelle manière avez-vous réussi à regrouper toutes ces informations sur Alexandre Tranois ? Jean Rochefort vous a aidé ? D'autres personnes ?
Rochefort a été décisif, évidemment, parce que non seulement il a amené ses souvenirs, il a amené aussi ce qu'il avait gardé d'Alexandre Tranois. Peu de choses, mais on avait des photographies, donc un visage. On avait des éléments autour de ses films, notamment des dessins sur le premier film de Tranois qui s'appelait « L'homme de l'aube », qu'il a tourné en Italie en 1954. Et il n'avait pas écrit de scénario, mais il avait réalisé un découpage en dessin, une sorte de storyboard. Et ce film était un peu une sorte de néo-réalisme à la française. Il anticipait la nouvelle vague à quelques années d'avance. Tranois a tourné en décor naturel entre Naples et Rome, avec sur ses propres fonds, parfois complètement fauchés. Il a improvisé des scènes, il n'avait aucune autorisation, il travaillait avec des comédiens amateurs. Donc voilà, on avait des bribes via Rochefort. À partir de là, ça a été le début d'un grand jeu de pistes. Évidemment, Rochefort a ouvert des portes. On a pu rencontrer d'autres acteurs qui ont travaillé avec lui. Et ce qui était très troublant et très émouvant, c'est que ce type parfaitement oublié avait laissé, chez des grands noms du cinéma, un souvenir lumineux. Rencontrer Jean-Claude Carrière, qui est un des plus grands scénaristes français, et qui nous a dit avoir travaillé avec Tranois, et qui encore, 50 ans après, en parlait en riant, avec l'œil qui frisait, en disant « c'est incroyable, j'ai jamais vécu ça avec un autre cinéaste », nous racontait des histoires folles, parlait avec Anouk Aimée, qui était encore sous le charme de ce personnage, qui a tourné 2 films avec lui, Jacques Perrin, et les autres. C'était assez étonnant, ce paradoxe. Et donc, voilà, on a slalomé comme ça, entre des grandes découvertes, qui ont provoqué chez nous un grand enthousiasme, qui ont scellé le désir de finir ce film coûte que coûte, et puis aussi des grands échecs, parce qu'évidemment, on ne s'attendait pas à mettre 15 ans à faire un film. On se disait, c'est bien parti, on a Rochefort, les portes vont s'ouvrir. Les portes se sont ouvertes, elles se sont refermées. Et on a eu un nombre d'échecs, nous aussi, assez important.
Et pourquoi ?
La première chose, c'est que le nom de Tranois a commencé à effrayer les partenaires. Si celui de Rochefort convainquait, un film avec Rochefort, ça donnait envie. Donc les gens nous écoutaient, ils trouvaient l'histoire vraiment séduisante, ils s'interrogeaient sur Tranois, puis au bout d'un moment, ils commençaient à nous dire « Non mais il ne faudrait pas mettre l'accent sur les échecs, en fait c'est pas très vendeur, c'est un loser. » Alors on disait « Mais non, c'est pas un loser. S'il avait échoué deux films et qu'il avait arrêté, ça serait un perdant, bon, inintéressant, ou en tous les cas une histoire assez commune. Lui, il a passé sa vie à essayer, il a rebondi à chaque fois. » C'est un Don Quichotte, c'est un rêveur. Il y a une ferveur incroyable chez cet homme, il y a une force, une énergie. C'était notre Don Quichotte de cinéma. Et mais évidemment, les financiers ne le voyaient pas comme ça. Donc on a perdu des partenaires en cours de route. Les portes se sont fermées, on a eu des moments donnés où on n'en croyait pas nos yeux parce qu'on a changé de producteur. Il y a eu on a eu des aventures qui étaient dignes de Tranois. Et on s'est dit, au bout d'un moment, on n'aurait pas dû s'intéresser à ce type. Finalement, c'était pas... Peut-être que d'une certaine manière, c'était un peu contagieux.
Parce que vous avez motivé à tenir bon ?
Plusieurs choses. D'abord, la sensation d'avoir quand même mis la main sur une histoire extraordinaire. Et ça, quand on est cinéaste et qu'on a une bonne histoire, on veut la raconter. Ensuite, il y avait une forme de défi. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, nous-mêmes, devenir des Tranois. C'est-à-dire se retrouver avec un film inachevé. C'est pour ça qu'on a tenu 15 ans. Et ensuite, il y avait une promesse. La promesse, c'était celle faite à Jean Rochefort, de lui dire, on va faire ce film, et on le finira un jour ou l'autre. On vous le promet. Hélas, aujourd'hui, il n'est plus là pour le voir. C'est la grande peine qui nous porte et qui nous accompagne. Mais d'une certaine manière, il est là sur l'écran. C'est son dernier film. Et c'est pour nous à chaque fois une très grande émotion de le voir apparaître, de le voir parler et de voir les spectateurs découvrir ce qu'est sa dernière prestation.
Oui, non, c'est vrai que c'était à la fois inouï pour nous d'être arrivé à finir ce film. Parce qu'il y a plein de fois on a failli abandonner. Heureusement, on était deux, donc ça a permis de... quand l'un s'est démotivé, l'autre était là pour soutenir, etc. Alors Tranois était tout seul, nous on était deux, c'était cette force-là. Et c'est vrai que quand on voit les gens dans le cinéma, dans les salles de cinéma, dans les festivals, rire... aux mêmes histoires, être ému aux mêmes histoires que nous quand on a recueilli la parole de Jean Rochefort, d'Anouk Aimée, de Claude Lelouch, etc. Ça, effectivement, on retrouve cette émotion-là qu'on avait au début, et c'est peut-être on est quand même content d'être allé au bout, quoi.
15 ans après, qu'est-ce que vous retenez de ces 15 années de tournage sur Alexandre Tranois?
Je pense qu'il y a, vraiment cette idée de s'accrocher, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que être réalisateur, être créateur en général, mais réalisateur en particulier, c'est vraiment... la prime à l'opiniâtreté. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher coûte que coûte, croire en ses rêves. Personne n'y croira autant que toi en tant que réalisateur. Donc vraiment, il y a eu cette leçon-là de Tranois qui nous a dit « Accrochez-vous, accrochez-vous et regardez, maintenant, ça se passe. » Voilà, le film a fait plusieurs festivals, notamment à l'étranger, en Italie, en Suisse. Et il sera bientôt en salle en avril. Donc voilà, il fallait s'accrocher, quoi.
Oui, ça rejoint ce que dit Vladimir. Pour ma part, la grande leçon de Tranois, c'est celle qu'on a éprouvée presque dans notre chair de réalisateur en faisant ce film pendant 15 ans. C'est-à-dire que l'échec, c'est pas une dilution, c'est pas une fatalité. L'échec, c'est le chemin normal des choses. Moi, j'aime pas les histoires de héros où tout se passe bien et où à la fin on gagne, parce que je n'y crois pas, parce que c'est pas vrai, c'est pas crédible. J'aime l'adversité, j'aime les moments où on se débat. Et effectivement, échouer beaucoup avec ce film nous a permis de trouver le film tel qu'il est aujourd'hui. Il y a 15 ans, on rêvait pas de faire le film qui est sur l'écran aujourd'hui. On rêvait d'un tout autre film qui aurait pu être très bien. Mais moi, je suis très heureux du film tel qu'il est devenu, qu'a embrassé le temps qu'a passé, qu'a embrassé toutes les difficultés, qu'a embrassé la disparition de Jean Rochefort, qu'a embrassé le grand mystère qui entoure ce qu'il reste des films d'Alexandre Tranois. Et s'il n'y avait pas eu tous ces échecs, le film ne se serait pas construit de cette manière-là. Il aurait été différent. Et en fait, l'échec est toujours stimulant. Si on arrive à rebondir dessus, il crée quelque chose. Il est facteur d'imagination, de ferveur, d'élan. Et c'est ça qui compte.
Alors, bien avant le tournage de ce film, l'œuvre invisible, vous connaissiez déjà ou vous êtes rencontrés à quelle occasion?
On s'est rencontrés il y a presque 30 ans. On était des très jeunes hommes sur les bancs d'un cours de théâtre. Et on rêvait tous les deux de réaliser. Alors on faisait des films tournés-montés et très vite on s'est un petit peu associés comme ça, à bagnauder ensemble, en disant « Tiens, on va faire des films ». On trouve une caméra, voilà, c'était l'arrivée du numérique avec le mini DV, donc on pouvait commencer à faire des films par nous-mêmes, des films autoproduits. On les a présentés en festival et puis peu à peu, on s'est professionnalisé, on s'est entouré d'un groupe. On a beaucoup travaillé pour le web, pour la télévision. Et puis Vladimir est réalisateur de films de fiction. Moi, je suis devenu réalisateur de films documentaires. Mais bien avant tout ça, on avait déjà Tranois, c'était il y a plus de 15 ans. Donc voilà, il y avait toujours cette espèce de Tranois entre nous qu'il fallait cultiver, qu'il ne fallait pas oublier, qu'il fallait réussir à rencontrer. Donc évidemment, on n'a pas fait que Tranois et l'œuvre invisible en 15 ans. On a fait d'autres films, Dieu merci. Mais il a toujours été là. Et aujourd'hui, c'est un peu émouvant de se dire qu'il ne nous appartient plus, il appartient aux spectateurs.
Donc projeté à l'occasion des rencontres du film d'art ici au cinéma Le Régent à Saint-Gaudens, il sera possible de le voir prochainement.
Oui, tout à fait. Le film sort en salle début avril. Il va sortir dans les salles de cinéma, on espère dans toute la France. Voilà, on est en train de préparer cette sortie. Ce film s'est fait toujours dans la marge. Effectivement, on a perdu des partenaires, il fallait trouver nous-mêmes des financements, le produire par nous-mêmes. Et là, on fait cette aventure un peu folle de sortir par nous-mêmes aussi, de le distribuer avec nos propres moyens. On a trouvé des programmateurs, des attachés de presse, etc., qui nous aident à faire ce travail-là. Et c'est très excitant et de pouvoir offrir enfin cette histoire aux spectateurs. Et il sera, j'espère, à Saint-Gaudens, début avril, dans les salles.
Vladimir Odonyov, merci.
Merci beaucoup.
Avril Tambouret, merci.
Merci.
Et je rappelle donc que vous êtes tous les deux réalisateurs de ce film, L'œuvre invisible. Merci.